Chapitre 9. Ce fut seulement dans l'après-midi que le serrurier électricien, envoyé de Rouen par Courteheuse, arriva à Oissel. Et, comme on le lui avait recommandé, il s'adressa à Boulnois pour que le caissier lui montrât les différentes pièces dans lesquelles il devait poser ses appareils. Ils commencèrent par l'étude, et la Vaupalière ne parut s'intéresser en rien aux mesures prises, que Boulnois et Fauchon suivaient au contraire avec curiosité, en gens qui espèrent deviner ce qu'ils ne comprennent pas. Puis ils passèrent dans le cabinet du patron et dans le salon, où ils trouvèrent Madame Courteheuse. « Qu'est-ce que c'est, Monsieur Boulnois ? » demanda-t-elle d'un air indifférent. Boulnois expliqua ce dont il s'agissait, pendant que le serrurier ouvrait les fenêtres, les volets et les refermait. « Est-ce vous qui avez posé les appareils électriques de Monsieur Ferré ? » demanda-t-elle au mécanicien. « Oui, madame. » « Et c'est le même système que vous allez employer ici ?»« Oh non, madame !» Au lieu de continuer à questionner l'ouvrier, elle s'adressa à Boulnois. « Vous pouvez retourner à l'étude, » dit-elle. « Je conduirai monsieur. » Boulnois, vexé, eut envie de résister, mais il n'osa pas. « Et pourquoi n'est-ce pas le même système » demanda-t-elle quand Boulnois fut sorti et qu'elle passa avec l'ouvrier dans la salle à manger. « Ah, voilà !» C'est que chez M. Ferré, on a été à l'économie. On a posé tout juste ce qu'il fallait de contact en prenant les moins chers. Alors, sa maison n'est pas fermée ? Elle l'est sans l'être. Je ne comprends pas. Il en est de l'électricité comme de la serrurerie. Une serrure de 30 sous ferme une porte, mais bien sûr qu'elle ne la ferme pas comme une de 30 francs. Ici, c'est des serrures à 30 francs que vous allez poser ? À peu près. On a montré à M. Courteheuse les différents systèmes et il a choisi les meilleurs. Cela était vague pour son ignorance. Elle voulut amener l'ouvrier à préciser. Qu'appelez-vous les meilleurs ? Demanda-t-elle. Pour qu'une fermeture soit complète, il faut qu'elle empêche d'ouvrir une porte ou une fenêtre de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle empêche d'entrer aussi bien que de sortir. Justement, chez M. Ferré, la fermeture extérieure n'est pas mauvaise, mais à l'intérieur, quelqu'un qui connaît un peu le système, un domestique, n'importe qui, peut empêcher facilement la trembleuse de sonner. Si j'avais là un de ces contacts, je vous montrerai comment on opère. Ce n'est pas ce système que M. Courteheuse a choisi. Non. Alors votre démonstration est inutile. Montrez-moi comment fonctionne celui que vous devez poser. Que madame se laisse amener à la fenêtre, elle va voir. Disant cela, il ouvrit un des battants. Dans la feuillure, je pose un contact que j'entaille. Tant que cette fenêtre est fermée, elle appuie sur un bouton d'ivoire en saillie qui interrompt le courant. Aussitôt qu'on l'entrouvre, le bouton sort, le courant s'établit, la trembleuse sonne. Madame doit comprendre que ni de l'extérieur ni de l'intérieur, l'ouverture ne peut se faire sans carillon. Je comprends. Mais enfin, n'est-il pas possible à quelqu'un qui habite à la maison de disposer à l'avance votre appareil de façon à ce qu'il ne fonctionne pas ? Ça oui, seulement il faut des outils, connaître le fonctionnement de l'appareil et avoir du temps devant soi. Alors on empêche la sonnerie ? Bien sûr. Seulement, comme les gens de précaution font fonctionner souvent le système, ils s'aperçoivent du dérangement et se tiennent sur leur garde. Ceux qui ont opéré ce dérangement sont pris, aussi bien que s'ils coupaient les fils. Vous avez donné ces renseignements à M. Courteheuse ? Oui, madame. Ça serait tromper un client que de lui laisser croire qu'une fois l'électricité posée dans sa maison, il n'y a plus à s'en inquiéter et que pour l'éternité, elle fonctionnera toute seule. Un commerçant fait sa caisse tous les soirs, n'est-ce pas ? Eh bien, pour l'électricité, c'est la même chose. Il faut faire la visite de ses appareils. Madame Courteheuse connaissait trop bien son mari, son besoin de vérification et de sécurité, pour croire un instant qu'il ne surveillerait pas ses appareils électriques et n'essaierait pas leur marche tous les soirs. L'espérance qu'elle avait eue de tourner le danger qui les menaçait d'une façon quelconque lui échappait donc. La maison allait être fermée, fermée comme la plus sûre des prisons, et si bien qu'elle n'en pourrait pas plus sortir, que la Vaupalière ne pourrait y entrer. « Quand posez-vous vos appareils ? » demanda-t-elle à l'ouvrier en montant avec lui au premier. Nous commençons demain. Et vous aurez fini ? Dimanche soir ou lundi dans la journée. Certainement lundi soir, vous serez fermé. Il prit un air discret et, s'approchant de Madame Courteheuse pour lui parler à mi-voix, « Si Madame se défie de ses domestiques, elle peut être sûre que pas un seul ne sortira de la maison sans que ça sonne, ou bien ils auraient coupé les fils. » Elle continua d'accompagner l'ouvrier dans les différentes pièces du premier étage, sa chambre, celle de son mari, où la place de l'interrupteur fut choisie comme elle l'avait prévu, au chevet du lit, sur le mur opposé à celui dans lequel s'ouvrait la porte qui faisait communiquer les deux chambres. Mais elle ne lui adressa plus la parole, n'ayant rien maintenant à apprendre de lui, et quand il redescendit, elle alla s'asseoir dans le kiosque du quai pour réfléchir et se reconnaître dans l'isolement. Que d'heures elle avait passé là depuis son mariage, monotone, triste, vide, exaspérée, désespérée, jusqu'au jour où l'avopalière était entrée dans l'étude. Gaie, remplie de souvenirs ou d'espoir, impatiente ou béate depuis ce moment, car ce n'était point une parole échappée à un élan passionné de dire qu'il avait créé la femme qu'elle était maintenant, mais la vérité même. De même que Courteheuse ne l'avait épousée que pour payer sa charge avec la dot qu'elle lui apportait, de même elle ne l'avait acceptée que pour la tira du couvent et lui donna une situation dans le monde qui la fit libre et considérée, car malgré toutes les histoires romanesques qu'elle racontait, elle n'avait pas la naïveté d'imaginer qu'il n'y a qu'à vouloir devenir maîtresse de roi pour que ce rêve se réalise. Eût-elle ce qu'il fallait pour en séduire un, la première condition à remplir était de se trouver sur le chemin de celui-là, et la raison lui disait qu'il n'y avait aucune chance que cette rencontre eût lieu jamais. En réalité, deux routes seulement se présenteraient à elle lorsque la majorité lui ouvrirait les portes du couvent. L'une qui la ramènerait chez son oncle Benoît, où elle vivrait dans un milieu grossier, où jamais elle ne trouverait un mari acceptable. L'autre qui, par un coup de tête et de révolte, la conduirait à Paris, où elle n'aurait qu'à se jeter dans la vie facile. Un moment, lorsqu'elle avait eu la vision nette de cet avenir, elle avait pensé à se faire artiste, mais sans que cette velléité persistât. Elle n'était pas douée pour la musique. Le long travail qu'exige le dessin l'ennuyait, et au couvent, on ne prenait pas de leçons de déclamation. Elle ne pouvait donc se faire une place dans la vie que par le mariage. Mais en ayant la sagesse de ne pas se montrer trop exigeante et de se contenter du mari, quel qu'il fût, qui voudrait bien d'elle avec sa bâtardise et sa dot modeste. Puisque Courteheuse était ce mari, elle le prenait sans s'inquiéter de l'homme. Sans doute, elle eût préféré qu'il fût beau garçon, délicat et distingué. Cependant, ce n'était pas parce qu'il semblait manquer de ses qualités qu'elle allait le refuser. Combien de ses camarades, qui pouvaient se montrer plus difficiles qu'elle, en avaient accepté de pire? Avant tout, le mariage. Mais il ne lui avait pas fallu longtemps pour reconnaître que le mari qu'elle avait pris et le mariage qu'elle avait fait ne valaient pas mieux l'un que l'autre. Du côté du mari, la désillusion avait été vive, car si, à première vue et malgré son inexpérience, elle avait deviné en lui un fils de paysan, lourd d'apparence, sans éducation dans les manières, comme sans délicatesse dans l'esprit, elle s'était imaginé qu'elle le formerait, puisqu'il était intelligent, et qu'elle l'élèverait jusqu'à elle, simplement en se faisant aimer. Mais elle ne s'était pas fait aimer, et conséquemment, elle ne l'avait pas formé. Sa femme, oui, ou plutôt sa femelle, et rien que cela. « Ma femme est un objet à mon usage », répétait-il à chaque instant devant elle, sans qu'un mot d'amour ou de tendresse corrige à jamais cette parole caractéristique. Une caresse, il ne lui en avait pas fait, pas plus qu'il n'en avait désiré d'elle. Entre eux, jamais un élan expansif. Jamais il ne l'avait prise pour confidente d'une espérance ou d'une déception. Jamais sur rien il ne l'avait consultée. Ses seules allusions à l'avenir roulaient toujours sur le même sujet, la mort de l'oncle Benoît, qui lui permettrait de vendre l'étude d'Oisselle pour en acheter une à Rouen ou au Havre. Du côté du mariage, ses désillusions avaient été plus pénibles encore, car ce que, jeune fille, elle avait vu dans le mariage, c'était la liberté de la femme avec des visites, des réceptions, des dîners, des bals, des toilettes, et bien qu'en acceptant Wassel, elle vint dans un village où cette existence n'était pas précisément facile, elle avait cru cependant qu'elle serait néanmoins possible dans une certaine mesure dont elle saurait se contenter. Mais justement, Courteheuse ne concevait la vie de ménage que d'une façon radicalement opposée. De relations, il n'acceptait que celles qui se traduisaient par de la clientèle. Pour lui, les dîners, comme les toilettes d'ailleurs, coûtaient cher et ne rapportaient rien. Enfin, si la distance rendait facile les visites à Rouen et à Elbeuf, où sa femme avait des camarades de couvent mariés, le billet d'aller et retour n'en coûtait pas moins 1,85 francs. Elle avait donc eu à subir une sorte d'internement aussi triste, aussi monotone que celui du couvent, sans que personne, comme elle le disait, eût fait plus attention à elle que si elle était un écureuil ou un ouistiti. C'est alors qu'elle avait passé des journées entières dans ce kiosque, couchée sur le divan ou bien allongée dans un fauteuil, n'ayant pour toute distraction à sa rêverie que le va-et-vient des trains sur le pont du chemin de fer, la montée ou la descente du toueur avec son bruit de chaîne, et sur la rivière, le mouvement des remorqueurs, des chalands, des péniches, de tous les bateaux employés à la navigation entre Rouen et Paris, qu'elle reconnaissait de loin à leur forme ou à leur peinture, aussi sûrement que l'eût fait un vieil éclusier. Que de fois s'était-elle roulée avec rage sur le divan, en enfonçant son mouchoir dans sa bouche pour étouffer les cris que ses nerfs étaient impuissants à retenir. Cette misérable existence ne finirait donc jamais. Sa jeunesse s'écoulerait donc jour après jour dans cet ennui désespéré et dans ce vide. N'aimerait-elle jamais? Ne serait-elle jamais aimée? Que de fois, regardant passer le train qui filait sur Paris, elle avait regretté de s'être bêtement mariée au lieu de se jeter dans l'aventure. Qu'importe ce qu'elle serait devenue, au moins elle aurait vécu, tandis qu'elle se mourait. Et voilà que, si elle ne pouvait plus voir son amant, cette agonie allait recommencer.